Bonjour Eric et Quentin.
Bonjour Élodie.
Vous êtes ce duo d'humoristes indissociables du Petit Journal et de Quotidien, dans lesquels vous avez officié et dans lesquels vous avez grandi aussi avant sévir sur France Inter et enfin de vous lancer dans l'écriture de vos spectacles. Le premier, On ne peut plus rien rire, vous a permis de sillonner la France et de décortiquer justement les origines du rire et l'importance qu'il a dans la société, notre quotidien. Votre credo et passion sont justement d'activer, de stimuler nos zygomatiques, semble-t-il. Et vous avez raison, car c'est sans conteste ce qui nous permet de nous maintenir en vie, de dédramatiser cette actualité assez anxiogène. Aujourd'hui, vous êtes de retour avec Papa, pas papa, un spectacle qui pose une question pour le coup existentielle, être ou ne pas être père, une question avec deux regards et deux réponses totalement différentes. Pour vous, Eric, un enfant est source d'angoisse, de frais conséquents, d'aliénation. Et pour vous, Quentin, un enfant, c'est au contraire l'espoir et le bonheur.
Oui.
Papa, pas papa, c'est un tête-à-tête avec deux hommes qui se retrouvent face à la parentalité. Sur le papier, on pense que vous en rajoutez parfois, mais on se rend compte que pas du tout.
Non, c'est nous, spectacle.
On essaye d'être le plus sincère possible. Alors oui, parfois on peut pousser un peu les curseurs, c'est normal, ça fait partie de l'humour. Mais je pense que dans ce qu'on raconte, on est très sincère.
Comment on peut être contre avoir un enfant?
Ah, alors voilà.
Moi je sais parce que Eric est radin, donc ça coûte cher un enfant, on le dit dans le spectacle, c'est 9000 euros par an.
C'est 9000 euros par an un enfant, que des frais alimentaires. Mais alors je ne suis pas contre ce que je dis dans le spectacle, ma position c'est que je ne sais pas si j'aurai d'enfant. Mais en revanche, je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir un enfant, ce n'est pas un diktat social en fait. C'est devenu un diktat social, mais on n'est pas obligé d'avoir d'enfant.
Et pourquoi on peut avoir un enfant? Pourquoi c'est important d'avoir un enfant?
Déjà pour le réarmement démographique, il faut relancer tout ça, comme je le dis à Eric dans le spectacle, c'est qu'à un moment, qui va payer sa retraite?
C'est vrai.
Donc, va bien falloir faire des enfants.
Faites des enfants, effectivement.
Ouais. Oui. Et c'est la première année depuis la Seconde Guerre mondiale où il y a plus de décès que de naissances en France. Donc, va falloir s'activer, les gars. Voilà,
c'est la première fois.
Oui, mais alors pourquoi mettre en monde un enfant dans une époque quand même qui est très compliquée?
C'est vrai, c'est anxiogène.
C'est
mais
affreux. Enfin, pauvre gamin, tu as vu le monde qu'on lui offre quand même? Surpopulation, famine, guerre.
Ouais, c'est vrai.
Enfin, pollution, c'est terrible, voilà, je le dis.
Mais moi, je fais tout pour qu'elle soit heureuse dans ce monde, voilà.
Il faut rendre le monde meilleur, voilà.
C'est la première fois que vous vous livrez entre nous. Réellement. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez caché soit par les caméras, ou elles vous protégeaient, ces caméras, je sais pas, même s'il y avait un plongée dans le grand bain, on va y revenir. Et après, sur la scène avec On ne peut plus en rien rire, on a le sentiment que vous avez mis du temps, entre guillemets, à vous faire confiance.
Il y a de ça, et surtout, on est très pudique, donc effectivement, on se cachait un peu derrière des perruques, des personnages.
Et toujours la perruque, pour ma part.
Oui, c'est pas des implants, d'ailleurs, ça a bien marché. Mais oui, et là, on se livre, en fait, on s'est dit, on est parti de notre propre histoire, donc forcément on enlève un peu la couche personnage rigolus, comme on dit.
Non, et puis je pense, oui, il y a une forme aussi de maturité, je pense, et puis c'est une vraie interrogation en soi, parce que moi c'est le constat de Quentin qui est devenu papa et de voir le changement que ça a été pour lui, et moi dans ma situation où je ne suis pas papa, et c'est des vrais questionnements qu'on a eu. On s'est dit finalement c'est intéressant d'essayer effectivement d'être un peu plus sincère aussi et de montrer une autre facette de nous.
Quand on devient père, évidemment le prisme des responsabilités se décale, on n'est plus au centre du jeu finalement, responsable d'un être humain. Ça change quoi?
En fait, tout bascule, c'est-à-dire les priorités basculent. Vous savez, on a des métiers assez intenses, vous travaillez dans les médias, donc des fois on s'énerve sur des choses qui deviennent vraiment, ça devient plus important du tout quand on a un enfant. L'enfant prend la première place de tout, et puis surtout on a la responsabilité de sa vie en fait entre nos mains. Moi je suis devenu adulte à ce moment-là en fait.
Ça change l'écriture ou pas, Eric? Même pour vous, automatiquement, vous regardez Quentin, vous dites, ça y est, il est papa, moi je le suis pas.
Ça change pas l'écriture, mais c'est intéressant ce qu'il dit quand, je le dis dans le spectacle, je le trouve plus calme et plus posé. C'est-à-dire peut-être moins angoissé sur certaines choses, ou même par rapport à moi. Par exemple, si j'ai un peu de retard, ce qui peut arriver parfois, ou je suis quelqu'un aussi d'assez bordélique.
Ponctuel.
Non, je suis
mais très bordélique.
Je suis très bordélique.
Vrai.
Et je pense qu'il y a quelque chose de plus serein, et je vois bien que ses priorités ont changé, mais c'est bénéfique, c'est très charmant à voir. Et moi, je l'ai vu quand on a fait le Festival d'Avignon, sa fille est venue et j'ai vu le Quentin papa. Je connais le Quentin au quotidien maintenant, et là, je le vois au papa comme il s'occupait bien de sa fille. Et très honnêtement, j'ai trouvé ça charmant et assez touchant. Donc, ça fait réfléchir aussi, d'une certaine manière.
Tu l'as promené en poussette à Avignon.
Je l'ai promené en poussette, c'est vrai.
Le rire occupe une place très importante dans votre vie, l'humour en général d'ailleurs. Vous avez abordé toutes les formes d'humour possibles et imaginables dans votre spectacle précédent.
Mm-hmm.
Le fait de travailler justement sur ce spectacle a changé aussi votre regard sur l'importance du rire, l'importance de l'humour.
Ce qu'on disait dans le premier spectacle, c'est que le rire permettait de s'éloigner de la pensée de l'affreux. Et je pense qu'effectivement, on est dans une époque extrêmement anxiogène, donc plus ça va être anxiogène, plus on a besoin de rire. Et réfléchir à la question de l'enfant, c'est quand même quelque chose d'extrêmement précieux, parce que ce que je disais en préambule pour rigoler, mais le côté effectivement surpopulation, pollution, montée des extrêmes, les guerres, c'est anxiogène. Donc forcément, on réfléchit aussi par rapport à un enfant. Et comment faire, même, j'ai envie de dire, rire un enfant, c'est idiot, hein, mais comment lui donner le sourire dans ce moment-là? Donc oui, on peut réinterpréter l'humour sous toutes ses formes.
Oui, oui, et puis sur ce spectacle, moi je me dis quand ma fille le regardera dans 10 ans, bah, je veux qu'on n'ait pas des blagues trop douteuses ou voilà. Je veux que ça soit des belles blagues.
Ouais, des belles blagues.
Non, mais c'est vrai.
Le point de départ, c'est Yann Barthès qui vous fait confiance au sein de deux émissions. D'ailleurs, vous le suivez. Hein,
alors, je précise, pardon, je me permets, le point de départ, ça reste quand même le SAV de Marie Fred. Parce qu'on a débuté en tant qu'auteur pour eux et c'est Bertrand Delaire qui a coécrit le spectacle avec nous, qui nous a donné notre chance. C'est pas du tout. Effectivement, on est passé devant la caméra.
Le point de départ à l'antenne.
Le point de départ d'antenne, c'est le petit journal et Yann Barthès. Et le point de départ de j'allais dire, on nous laisse notre chance en termes d'humour, c'est le SAV de Marie-Fred.
Excellent rectificatif, Eric, bravo.
Ouais, là, je ne me laisserai pas faire, Élodie.
C'est important de leur préciser, effectivement, non, parce que ça commence par l'écriture, dans l'ombre.
Mais, et c'est ce pourquoi, j'ai le sentiment, on était quand même destinés à la base. Nous, c'était pas de faire de l'antenne, on n'a jamais réclamé à faire de l'antenne. C'est un accident de parcours, un chouette accident, mais c'est un accident de parcours.
En fait, on faisait les imbéciles dans les couloirs de Canal et on nous a dit, bah, au lieu de les faire dans les couloirs, ça sert à rien, faites-les à l'antenne, quoi. Et ça a plutôt bien fonctionné, donc.
Vous êtes retrouvés quand même face à des caméras derrière lesquels il y avait énormément de spectateurs, parce qu'il y a quand même eu toujours des audiences assez fortes. Comment vous avez géré ce stress
Sur le moment, en fait, je pense, enfin, c'était d'accord avec, on n'a pas du tout réalisé ce qui se passait, en fait. On a compris après, parce que on fait notre tournée spectacle partout en France, et on a compris l'impact de cette émission. Après, à chaque fois, on nous dit « Ah, le petit journal quotidien !» Et en fait, on s'est rendu compte que cette émission était extrêmement regardée. Mais sur le moment, vous le savez, vous travaillez en quotidienne, en fait, on n'a pas le temps de se poser cette question, de se dire « Oh, ce soir, on a fait 1 million. En fait, on doit faire la vidéo du lendemain. Donc, on était dans une frénésie.
En vrai, on t'a fait tellement, parce que effectivement, même les horaires ne nous permettaient pas de nous rendre compte de ça. Et on avait le stress déjà, une fois le sketch écrit, tourné et diffusé le soir, il fallait déjà réfléchir à celui du lendemain. Donc, on n'avait pas ce temps de repos. Donc, en fait, on ne réalisait pas. Et puis, on était jeunes. Hein. Je crois qu'on a commencé, on avait 24.
Moi, j'avais 8 ans.
Ah, t'as 8 ans. Ouais. T'étais vraiment très jeune.
J'ai commencé très tôt la télé.
Très, très jeune, quand même. Non, mais on avait, dans les 24-25 ans. Donc, il n'y avait pas au début les réseaux sociaux, donc ça allait très vite. Et effectivement, le fait qu'il n'y ait pas les réseaux sociaux, peut-être qu'aussi, on ne s'en rendait pas compte.
Ouais. Ce qui est important, surtout, c'est de comprendre que l'humour, c'est vraiment un sujet qui est sérieux, même si on a envie d'en rire. C'est-à-dire que c'est très difficile de perdurer dans ce milieu-là. Ça nécessite un travail, une abnégation très forte. Qu'est-ce qui fait que vous ayez envie de continuer?
Je dis, c'est quelque chose de très sérieux, mais il ne faut pas se prendre au sérieux pour autant. C'est ça l'équilibre qui est pas évident.
Je pense que c'est la création. Là, par exemple, cette année, on est de retour à la télé dans une émission qui s'appelle On a du nouveau sur Novo 19. Il y a Renaud Levent-Kim, qui est un grand producteur, qui nous a fait confiance. C'est ce qu'on propose de faire, entre guillemets, le projet artistique. Après, télé, que ce soit télé, ciné, radio.
Cirque.
Ouais, cirque.
Pourquoi voilà.
Mais l'idée, c'est d'avoir une bonne proposition artistique et puis que ça fasse rire ou sourire, en tout cas.
Elle vous a permis de vous construire, cette passion pour le rire?
J'allais dire, plutôt permis de résister.
C'était une armure aussi, hein?
Bien sûr. Mais c'est, encore une fois, c'est éloigné de la pensée de l'affreux. C'est une armure, ce qui est compliqué parfois, je pense, dans l'humour, et je pense que c'est propre notamment aux humoristes, c'est que cette armure, elle peut devenir un peu forteresse dans laquelle on s'enferme. Mmh. Et c'est parfois compliqué, il faut trouver cette espèce de pont-levis. Mmh. La métaphore est incroyable. Il faut trouver cette espèce de pont-levis qui nous permet de revenir vers
l'affreux. Non, mais l'humour mène à tout à condition d'en sortir. C'est toujours pareil, c'est que si on fait que ça toute notre vie, puis je pense que les humoristes, et on s'inclut dedans, on a tendance à en abuser des fois, que ça soit même en dehors du travail. Donc, faut se trouver une balance. Pas être tout le temps dans la vanne, parce que sinon t'es plus crédible après.
Ouais, pas être dans la surprotection. Mmh. Mais c'est pas évident parfois, c'est le réflexe. Non, mais je pense qu'il y a un
humoriste dépressif.
C'est ma théorie, mais je pense qu'il y a un fond dépressif dans chaque humoriste. Ça sera ma théorie.
C'est le côté clown triste et.
Ouais, mais voilà. Plus on a besoin de rire, c'est qu'il y a besoin c'est une accumulation de choses. Donc, d'une autre manière, on le fait un miroir par le rire.
On parlait de pont-levis. Est-ce que vous vous sentez un peu chevalier de la table ronde en étant ensemble? C'est-à-dire un pour toi, un toi pour moi.
Oui, on est très, entre guillemets, solidaires l'un avec l'autre. Donc, on a vécu des bons moments comme de mauvais. mauvais, donc on est soudés.
On a une interdépendance, je pense, là-dessus. Ça n'empêche pas que chacun a ses petits sas de travail ailleurs. Voilà, ça qui est bien, c'est que je pense qu'on a un équilibre où on se retrouve sur la scène, on se retrouve pour tout ce qui est humoristique, et après, chacun de notre côté, on a nos propres petites activités.
Et puis moi, j'ai le Jokari à côté, où je suis quand même classé national. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais...
Bah, t'as fait quatrième.
Ouais.
Ça a été fait battre quand même par...
Oui, par le... Oui, je sais.
Le Biarro.
Ouais.
Très fort, le Biarro.
Ce qui est fort, justement, c'est la capacité que vous avez à aller chercher des vraies informations. Et en même temps, j'ai l'impression que le fait de donner des vrais chiffres, de remettre les choses dans le contexte, vous permet aussi de plus vous lâcher.
Oui, ben, en fait, ça nous crée une matière. Surtout, ça permet, ben, on parlait du fact-checking, mais... Il y a de la, c'est de la véracité, donc c'est ça. Quoi,
c'est presque une forme de déformation qu'on a eue avec l'époque Petit Journal, aussi, c'est que comme on se basait que sur de l'actualité et sur du vrai, mais ça nous donnait une béquille. On se dit toujours qu'au moins, en plus de rire, les gens apprennent des choses. Et ça nous donne une matière finalement, pas ex nihilo, mais quelque chose de très concret. Mais il y a toujours cette idée que oui, les gens vont apprendre, on ne fait pas sur du n'importe quoi. Ce n'est pas un jugement, c'est-à-dire que des gens peuvent faire sur de l'absurde complet ou du n'importe quoi. Mais nous, je pense que c'est un peu notre manière de faire.
Puis il y a des... guillemets, je sais pas si nous on est des entertainers purs, comme peuvent l'être des stand-uppers, ou qui peuvent réussir à faire rire sur un fait de la vie quotidienne. Nous, on va se baser vraiment sur l'actualité, l'info, et puis ça nous intéresse surtout.
Mais peut-être que c'est une manière de se protéger, si on en vient à ce que vous disiez, je réfléchis, mais c'est peut-être aussi parfois une manière de se protéger, mais en même temps c'est quelque chose qui nous intéresse.
Mais transmettre aussi,
je pense. Ouais, je suis d'accord.
Comme on dit, si on a retenu une petite info en sortant du spectacle, nous on est contents.
Est-ce que vous avez la peur du vide ?
Je crois pas, parce que j'ai le sentiment justement que comme chacun a des petites activités à côté, je crois pas.
Ben, on l'a d'autant moins pour ma part avec un enfant. Parce que ça prend pas mal de place, mais j'ai fait une thérapie avant d'avoir un enfant. Mais j'ai pas cette peur.
Je parlais de la peur du vide. La peur du vide, c'est quelque chose qui, avant une antenne, peut angoisser. Et du coup, c'est pour ça, souvent, qu'on maintient des chiffres ou des choses qui viennent solidifier dans ce qu'on a à raconter, parce qu'on sait comment on a ce truc-là.
Non, j'ai l'impression... En plus, on fait de plus en plus, on s'amuse de plus en plus à faire des impros sur scène, et vraiment, on rigole bien avec le public.
Mais comme vous l'avez dit au début, on a plus confiance en nous. Donc oui, on se va plus se lâcher, on va plus sortir du factuel pour aller sur de l'absurde et du jeu un peu fou, quoi, je veux dire.
Il y a un côté Molière chez nous maintenant.
Pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment vous êtes rencontrés tous les deux ?
On s'est rencontrés, au SAV d'Omar et Fred. C'est-à-dire que Quentin écrivait des textes pour Omar et Fred avec Bertrand Delaire, et moi je suis arrivé un peu à la deuxième saison, quelque chose comme ça. On s'est rencontrés comme ça, et en fait, deux ans plus tard, on reçoit un coup de fil du producteur du grand journal, Laurent Bon, qui cherchait des auteurs pour le petit journal de Yann Barthès. Et le truc, c'est qu'on était en concurrence, on n'a pas voulu le dire au producteur, on a fait croire qu'on était un duo.
Ouais. Parce qu'on n'avait jamais écrit ensemble.
Jamais, mais je pense qu'il y avait une espèce de pudeur. Je ne sais pas comment expliquer pourquoi on a fait ça. On ne voulait pas se tirer dans les pattes l'un à l'autre. Et donc, on est arrivé à l'entretien en duo, en faisant croire qu'on était un duo. Ils nous ont fait faire un essai dans les bureaux pendant deux semaines. Un petit bureau, tous les deux. On ne se connaissait pas très bien. On se croisait sur les tournages du SAV, mais en soi, on n'avait jamais écrit ensemble. On avait un ordinateur pour deux. Et en fait, on faisait semblant de très bien se connaître. On va manger. Mmh. Tu vois. J'ai que dans le mytho, mais en fait, ça s'est très bien passé.
Le mytho a fonctionné.
Le mytho a bien marché. Donc, pour avoir un travail, n'hésitez pas à mentir.
Il faut mentir sur son CV. Hein.
Mentir. mais c'est comme ça que ça a commencé. C'est pour ça que j'ai une espèce d'interdépendance. C'est qu'on avait besoin l'un de l'autre pour avoir ce taf-là.
C'est aussi très compliqué de vendre ses vannes. Tout seul. Ceux qui font ça, respect, parce que on est face à une rédaction où il faut dire on a pensé à ça, et puis les gens sont soit fatigués ou ils ont leur vie, et des fois y a un silence.
Ouais, parce que c'est des conférences comme vous imaginez, une conférence de rédaction sur des sujets hyper graves, hyper sérieux, puis nous on arrive, on pourrait faire le sketch, la blague, on met une perruque, une moustache, et puis on dit...
Mais donc c'est bien d'être deux dans ces moments-là.
Vous êtes passé de la télé au spectacle. On passe de quelque chose de très, entre guillemets, abstrait. Il y a des téléspectateurs, on le sait derrière l'image, mais on ne les voit pas, à être yeux dans les yeux avec un public. C'était essentiel et ça ne pouvait arriver que maintenant, après le parcours que vous avez eu.
Vous appuyez sur un bon point, c'est que c'est une des raisons pour lesquelles on a fait du spectacle. C'est que, comme vous dites, on peut être regardé par un million de personnes, mais on ne sait pas qui c'est. Alors que les gens qui viennent vous voir en salle, il y a une vraie démarche. Déjà, ils payent une place et on les rencontre à la fin du spectacle. Et ça, c'est génial. En fait, il y a une vraie interaction, un vrai moment qu'il n'y a pas en télé, mais c'est un autre.
Non, mais c'est vrai. On ressent le public, les blagues avec le public. Il y a quelque chose de beaucoup plus, je ne vais pas dire doux, mais humain. Mais c'est cliché, mais c'est vrai. C'est que là, même quand la tournée nous permet d'aller dans plein de villes, dans plein d'endroits différents, et c'est bête à dire, mais ça nous fait voir aussi la France, quoi, tous les territoires, et ça c'est génial. C'est que on peut se rendre compte d'un impact. Quand il y a eu la hausse du prix de l'électricité, on s'est retrouvé dans le Berry, et donc nous on connaît, l'électricité a augmenté. Et ben là dans le Berry, ça posait un vrai problème. C'était à Leblanc, me semble-t-il, où la piscine municipale, ils avaient arrêté de la chauffer.
Mais de la baisser de 2 degrés de 2 degrés. Faire des économies d'électricité.
Et c'était un vrai problème. Mmh. Ça peut paraître ridicule comme ça, mais on comprend que c'était un vrai problème parce que c'était un côté de loisir. Et ça, c'est des choses où c'est génial aussi d'aller à la rencontre du public, de discuter avec eux, de comprendre la France.
Puis ces dates à Pyongyang aussi, en Corée du Nord. Ouais. Incroyable, on a rencontré plein de gens.
Pas beaucoup de gens là-bas. On n'a pas, pas une personne avec une coupe bizarre et qui applaudissait tout seul. Mais bon.
Non, et puis sur le côté scène, en fait, en télévision, quand on tournait nos sketchs, on pouvait couper au bout de 5-10 secondes pour faire une séquence. Mais sur scène, on coupe pas, en fait. Et ça, honnêtement, ça nous a appris énormément. C'est que c'est 1h, 1h10 où c'est tout droit et faut pas lâcher le rythme. Ça, c'est très intéressant à apprendre et à intégrer. Ouais.
Je me posais la question de savoir si par moment vous avez perdu pied. Il y a eu ce film qui a pas fonctionné, qui a été très douloureux pour vous. Mmh.
Pas si douloureux que ça, faut pas exagérer. Il y a pire dans. Non, mais ouais, il y a pire dans la vie. C'est pas agréable, mais c'est pas.
Non, comme on dit, c'était génial jusqu'au jour de la sortie.
Ouais, voilà.
Parce que c'est une expérience incroyable, un film. Après, ça a pas fonctionné en termes d'entrée. Bon, il y a. On n'est pas les seuls, je crois, sur les films qui se plantent. Et puis, c'était pareil, c'était une expérience. Ce qui a été le plus dur, c'est un peu le hate sur les réseaux sociaux, en fait. C'est ça qui a été le plus dur. Mais le reste...
Finalement, est-ce que c'est pas ce qui vous a permis de vous recentrer
Je pense que si, ça nous a... Et c'est pour ça, en fait, c'était hyper intéressant comme leçon, parce qu'on s'est rendu compte... On a fait une erreur. C'est-à-dire qu'en faisant ce film, on l'a écrit trop vite, on s'est pas reposé. En fait, il y avait un côté, je pense qu'il y a une accumulation à cette époque-là, où on faisait le petit journal. Et ça a été une leçon qui nous a servi pour le spectacle. C'est-à-dire qu'on fait pas tout maintenant, on sélectionne ce qu'on fait et on travaille fort dessus. Et ça, c'est une vraie, ça nous a vraiment beaucoup servi pour le spectacle. Maintenant, on ne fait pas tout en même temps, on ne s'éparpille pas, on se concentre sur le spectacle.
Mais, vous le savez, c'est des métiers précaires. En fait, quand on vous propose un film, on ne dit pas non, quoi. Et on a dit oui à tout à ce moment-là, et je pense que, comme dit Eric, c'était trop, quoi.
Ouais,
mais bon.
Enfant dans un magasin de bonbons. Et on n'a pas su refuser, et on n'a pas eu les bons réflexes. Mais c'est une bonne leçon. Et en vrai...
Oui, c'est que faut mettre ça à l'échelle de la vie de la planète, va quoi.
Papa, est-ce que c'est pas justement le bon curseur, le bon endroit où vous vouliez être, vous sentez le mieux, il y a une sérénité en fait dans votre façon même de vous adresser au public, d'aborder certains sujets, il y a toujours autant de sourires, mais on va dire plus arrondis, plus posés.
Ouais, je pense qu'on a peut-être moins besoin de prouver, je sais pas comment expliquer, je pense qu'on est plus nous-mêmes, mais c'est ce que vous disiez au début, c'est qu'il y a moins de protection, d'armure, donc c'est peut-être plus doux, mais ça n'empêche pas de beaucoup rire justement. Parce qu'en étant plus nous-mêmes, on arrive à...
Oui, on est nous, on se dit pas faut être comme ça pour faire rire, c'est qu'on est nous, et puis si ça fait rire, tant mieux, quoi. Donc,
et ça rend les choses naturelles, non, c'est très chouette.
Bon, est-ce que le fait de devenir père, l'angoisse n'est pas justement de pouvoir créer une descendance?
ouais, comme je le dis dans... Alors, Eric, on en parle dans le spectacle, à ce moment-là, moi je dis que c'est important d'avoir une descendance.
Ouais, c'est un peu Jacouille la Picouille, quoi, on n'est pas au Moyen-Âge, mais...
Non, moi je suis très content d'avoir... ma fille qui porte mon nom de famille qui s'appelle Margot, parce que elle s'appelle Sienna Margot. Et en fait, j'étais le... Il y a eu des petites histoires dans ma famille, j'étais le dernier des Margot, en fait. Donc, j'étais content qu'il y ait d'un coup une deuxième Margot. Donc, voilà.
Et moi, Queen, on verra.
Inch'Allah, Eric.
Non, mais je sais pas. C'est pour ça que ça... Mais c'est... Ouais, ça reprend un peu cette espèce de... On en parle aussi dans le spectacle. Il y a une espèce d'énigme. Quand je dis que je n'ai pas d'enfant et je ne sais pas si j'en aurai, il y a toujours un petit regard suspicieux. Il y a quelque chose d'assez bizarre. Alors encore, je m'en sors bien parce que je suis un homme. C'est-à-dire que moi, à la rigueur, on me dit... T'as le temps. Pour les femmes, c'est pire parce qu'on dit attention, horloge biologique.
Il faut congeler ses ovocytes. Ah ouais. Donc il y a une pression.
La pression sociale pour les femmes est bien pire là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette espèce de suspicion de pourquoi il n'a pas d'enfant.
C'est aussi à cause de ta coiffure, hein, je le répète.
Oui, parce que je ne vois pas.
C'est ça la suspicion. En fait, qui est son coiffeur?
Je ne peux rencontrer personne parce que je ne vois pas les gens.
On ne voit pas.
Donc.
C'est ça ce spectacle, hein. C'est pour les hommes et les femmes,
bien sûr.
Les personnes qui sont seules, qui sont célibataires, en couple, en famille, ça s'adresse à tout le monde.
Qui ne peuvent pas avoir d'enfants aussi, on le précise, parce que ça peut être un moment très difficile dans une vie.
Oui, on en parle aussi.
C'est pour celles et ceux qui n'ont pas forcément envie d'en avoir,
exactement.
Et qui ont le droit de ne pas avoir d'enfants. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans
le
studio
sur France Info.
Eric et Quentin, donc, vous êtes actuellement sur scène, on l'a dit, avec ce spectacle Papa, au Théâtre de la Contrée Scarpe, tous les lundis
21h.
À 21h.
Merci beaucoup.